Le débat du jour. Loïc Bussière.
Soit c'est la dislocation, soit c'est la dilution, soit c'est au contraire la volonté commune de donner un projet à l'Europe. C'est ce que j'appelle la nouvelle impulsion.
Voilà, c'était ce matin à Bratislava, François Hollande qui résume les enjeux européens du moment. Dislocation ou nouvelle impulsion, voilà le choix des membres de l'Union réunis ce vendredi à 27 pour le premier sommet de l'ère post-Brexit. Le Brexit, il doit forcer l'Europe à se repenser, à se réformer. Tous les observateurs s'accordent sur le diagnostic. La nature du traitement, en revanche, elle divise. Comment rebâtir une Europe qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de solutions? Une Europe dont la monnaie unique, en particulier, est montrée du doigt par certains. L'euro, pilier ou caillou dans la chaussure d'une Europe qui n'a pas d'autre choix que d'avancer. L'euro est-il une chance ou un poids pour l'Europe de l'après-Brexit? C'est le débat de ce vendredi. Bonsoir. Et pour en parler justement autour de cette table, j'accueille Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative économique. Bonsoir. Bonsoir. François Laffont, vous êtes vous enseignant à Sciences Po en intégration européenne très précisément. Je le disais à l'instant, messieurs, le premier sommet européen à 28 moins 1, donc se tenait aujourd'hui en Slovaquie. Le pays, je le rappelle, occupe la présidence tournante de l'Union depuis le mois de juillet. Et déjà, les commentaires qui parviennent ce soir de Bratislava parlent d'une situation critique pour l'Union européenne. Le constat est commun pour Angela Merkel et pour François Hollande, qui doivent d'ailleurs dans les minutes à venir donner une conférence de presse commune. Ironiquement, ce sommet de Bratislava, il se tient au moment où sort un livre intitulé « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe ». L'ouvrage est signé Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001. Comment, messieurs, doit-on comprendre ce diagnostic? Je me tourne vers vous, professeur François Laffont.
Bah écoutez, la question que pose Stiglitz est une bonne question, mais elle me semble un petit peu en décalage par rapport à l'événement que vous avez mentionné au départ de cette émission, à savoir la réunion à Bratislava des 27 chefs d'État et de gouvernement, Conseil européen un petit peu extraordinaire, le premier sans le Royaume-Uni. Et une des questions qui sera abordée, l'agenda en tout cas, c'est l'immigration, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, mais l'euro n'est pas à proprement parler sur l'agenda. Donc il y a une sorte de déconnexion entre, d'une part, effectivement, le livre de Stiglitz et la question de l'euro, c'est-à-dire comment on fait pour approfondir la zone euro, pour faire en sorte que cette monnaie commune reste commune et soit un facteur de progrès économique. Et puis la situation plus générale d'un million d'immigrés, de migrants ou de réfugiés qui sont arrivés sur le continent, qu'il faut gérer. Et puis des sous-groupes, c'est-à-dire des pays qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire ensemble. Donc c'est un petit peu aussi l'objet du Conseil européen à Bratislava.
Guillaume Duval, cette question de l'euro, elle est entre guillemets hors sujet?
Non, elle n'est pas au sujet. Je pense que même pour les Britanniques, elle a joué un rôle important. Donc, dans le débat du Brexit, il y avait bien sûr la question des migrations qui était centrale dans la propagande de ceux qui voulaient sortir de l'Union. Mais en même temps, je pense que indirectement, en tout cas, le fait que la zone euro soit incapable de sortir de la crise, soit incapable de réduire rapidement le chômage en son sein, de relancer l'activité, et que dans le même temps, on constate que tout en étant incapable de faire ça, les institutions européennes et à la demande notamment du gouvernement allemand essayent de limiter encore plus la souveraineté des États en prenant le contrôle de leur budget de manière de plus en plus fine, etc. Ça a dû contribuer aussi à pousser les Britanniques dehors en se disant qu'est-ce qu'on peut continuer à faire avec ces fous qui non seulement sont pas capables de s'organiser pour soutenir un peu leur activité, mais qui en plus veulent vraiment supprimer la souveraineté des États à laquelle on tient. Donc je crois qu'il y a une articulation entre les deux crises. Mais ceci dit, pour ce qui concerne Bratislava, donc c'est juste que la question de l'euro n'est pas à l'ordre du jour. Elle va se poser de nouveau malgré tout. On est en train de vivre sans doute un redémarrage de la crise financière à travers en particulier les difficultés énormes que rencontre aujourd'hui la Deutsche Bank, une plus grande banque commerciale allemande. On a toujours pas résolu la question grecque de la dette grecque et il y aura des rebondissements. La politique de la BCE suscite elle aussi des débats de plus en plus intenses. Donc la question va se poser, même si elle n'était pas posée aujourd'hui à Bratislava.
Allez, on peut dire sous-jacente. François Laffont, on a beaucoup parlé d'onde de choc après ce vote du 23 juin dernier. Est-ce que, justement, cette onde de choc, en ce qui concerne l'euro, elle est parvenue jusqu'aux membres actuels de l'Union ?
Écoutez, mais je suis pas sûr, encore une fois, que le vote britannique soit lié à l'euro. Ils n'en faisaient pas partie, ils n'ont jamais souhaité en faire partie. Et donc, pour eux, c'était pas le sujet, c'était même pas la campagne. Ils constataient simplement que ça fonctionnait pas sur le continent. Et donc, c'était éventuellement un élément supplémentaire pour dire, la construction européenne ne fonctionne pas. Donc, sortons-en. Mais c'était pas l'objet de la campagne. Je crois plutôt que, effectivement, on va rediscuter de la zone euro et des mécanismes qui ne fonctionnent pas forcément. Donc ça a été mentionné, la crise grecque, la situation bancaire, pas simplement en Allemagne, mais aussi en Italie ou dans d'autres pays, le rôle de la BCE. Mais moi, j'ai une vision beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé trop loin, c'est qu'on n'est pas allé assez loin et qu'on n'a pas assez mis les instruments nécessaires collectivement pour que la zone euro fonctionne. Donc c'est peut-être en ça que le bouquin de Stiglitz va être important, c'est-à-dire que ça va nous permettre de réfléchir et de voir, d'identifier ou même de nous forcer à mettre en place les institutions, des processus, pour faire en sorte que ce qui a été commencé, c'est-à-dire cette mise en commun de nos monnaies avec un euro, fonctionne pleinement et qu'on arrive effectivement à avoir un taux de croissance un peu plus élevé et que ça devienne un instrument d'une politique économique efficace qui n'est pas complètement encore parce qu'il y a des éléments qui sont pas en place. L'union bancaire est pas complètement en place. L'union économique et monétaire, on sait exactement où il faudrait améliorer les choses. Sauf que, encore une fois, et c'est là l'ambiguïté de certains, c'est que c'est pas au niveau européen que ça coince. C'est dans les capitales que ça coince. C'est les capitales qu'ils ne veulent pas aller plus loin dans cette construction pleine et entière d'une union économique et monétaire fonctionnelle efficace. C'est ça le problème. C'est Paris, Berlin. On sait où sont les choses à améliorer. Et il y a un petit peu de résistance, notamment à Bercy, notamment à Berlin, pour sauter le pas.
Guillaume Duval, est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il ne faut pas... enfin, en tout cas, que plus d'euros, c'est surtout mieux d'euros. C'est comme ça que la question doit être posée ?
Oui, enfin, sur le bouquin de Stiglitz. Stiglitz, c'est quelqu'un qui était opposé à l'euro depuis 30 ans. Quasiment tous les économistes américains ont toujours été opposés à ce truc-là. Bon, c'est vrai qu'en plus, ça présente le risque de concurrencer demain le dollar à l'échelle internationale. Mais ils étaient aussi opposés pour des raisons de théorie économique qui tiennent notamment à ce qu'on appelle la théorie des zones monétaires optimales, donc qui a été développée par un Canadien qui s'appelle Mundell au début des années 60 et qui dit en gros que pour avoir une monnaie unique sur un territoire avec plusieurs pays, il faut beaucoup de transferts budgétaires, il faut que les cycles économiques soient les mêmes, il faut que les préférences des citoyens soient les mêmes, etc. Toutes des conditions que la zone euro ne remplissait pas vraiment. Donc ça, Stiglitz, mais aussi Krugman le constatait, le critiquait depuis les années 90. Mais si vous y réfléchissez trois minutes un peu sérieusement, vous vous dites que de toute façon, il n'y aura jamais de zone monétaire optimale, qu'une zone monétaire optimale, c'est une zone qui a déjà une monnaie unique depuis 150 ans, que les États-Unis eux-mêmes, ça a été extrêmement compliqué d'unifier le marché et la monnaie aux États-Unis. Ils ont pris 140 ans pour avoir une vraie banque centrale, etc. Que donc, il n'y a pas forcément lieu de se mettre martel en tête avec ce genre de truc. Et l'autre chose que Stiglitz sous-estime manifestement, c'est l'ampleur de ce qui a été fait dans la crise. C'est vrai que si on avait dit à Angela Merkel au début de 2010 que dans les 5 ans qui suivent, on allait faire une union bancaire, que ce ne serait plus les États qui contrôleraient leurs banques, mais la BCE, que la BCE elle-même commencerait à racheter à tour de bras des titres de dette des États, etc., qu'on allait mettre en place un fonds de 700 milliards d'euros pour aider les pays en crise. Je ne sais pas si elle aurait éclaté de rire ou de rage, mais en tout cas, je suis sûr qu'elle était persuadée, ainsi que Wolfgang Schäuble à ce moment-là, que jamais rien de tout ça ne verrait le jour, elle vivante. Et on l'a fait. fait en 5 ans. Bon, c'est vrai que ça suffit pas, et Stiglitz le dit, il manque encore plein de trucs, il manque des politiques industrielles, on est encore en train de le voir avec les histoires Alstom, on l'a vu aussi avec les histoires de numérique, et il manque en matière budgétaire, les politiques restent très restrictives, et c'est pour ça qu'on réussit pas à décoller malgré tout ce qu'on a déjà fait dans la crise, notamment pour corriger les défauts massifs de la zone euro au moment où elle était construite. Alors après, Stiglitz, lui, il en tire comme conclusion qu'il faudrait mieux en sortir et casser le truc. Moi, j'ai tendance à penser que une sortie douce, comme il dit, ça n'existe pas. Que le seul mode de sortie possible, c'est de tout casser. C'est ce que Marine Le Pen propose, c'est-à-dire sortir de l'euro pour sortir de l'Europe, pour reprendre nos vieilles habitudes de bagarre, de tous contre tous en Europe, et qu'il n'y a pas trop de moyens d'éviter ça. C'est pour ça que je pense que, enfin, si vous voulez, c'est un Américain. Il connaît pas bien la situation européenne. Il pense qu'il a quand même besoin de nous dire ce qu'on devrait faire. Moi, si j'écrivais un bouquin sur les États-Unis pour leur dire ce qu'ils devraient faire pour rapprocher les républicains, les démocrates, les blancs et les noirs, et les côtes est, ouest et le centre du pays, je pense que je serais aussi à côté de la plaque, quoi. Mais c'est vrai que ça peut jouer dans le débat public le rôle d'accélérateur que François Laffont évoquait, c'est-à-dire de titiller les gens pour leur dire il faut aller plus loin, parce que c'est vrai qu'il faut aller plus loin et le plus vite et le mieux, sinon ça risque d'être les eurosceptiques et les xénophobes qui l'emportent dans tous les pays.
Alors François Laffont, justement, ces eurosceptiques, ils sont légion, je ne sais pas, en tout cas on les entend beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour, je ne vais pas leur dire leur rendre la foi, mais en tout cas leur donner une vision un peu plus optimiste de l'Europe?
Effectivement, c'est pas facile parce que les faits leur donnent quand même raison. Un taux de chômage relativement important, une croissance anémique, déficit budgétaire qui reste important, une dette publique qui reste importante.
Quand vous faites cet inventaire à la Prévert, j'allais dire, il est difficile effectivement d'être optimiste.
Oui, mais il faut être réaliste. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on réussira à convaincre les citoyens qui sont des gens intelligents, c'est qu'il ne faut pas nier la réalité. Au contraire, il faut présenter la réalité, il faut expliquer que pour lutter et pour améliorer la situation, c'est pas, comme l'a dit Guillaume Duval en sortant, qu'on améliorera la solution, la situation. C'est en mettant en place des mécanismes qui ont été identifiés parfaitement. Hein. On peut parler du rapport des 5 présidents qui avait été élaboré il y a un an, qui élabore un certain nombre de pistes, qui, à mon avis, ne va pas assez vite et pas assez loin. Il y a des éléments qu'on pourrait faire tout de suite de façon à ce que la zone euro puisse, par exemple, avoir un comité au sein du Parlement européen, c'est-à-dire un premier embryon politique de contrôle de cette monnaie qui n'existe pas encore et qui pourrait donc avoir un dialogue avec la BCE qui n'existe pas. On pourrait très bien envisager qu'il y ait un président de la zone euro qui soit aussi vice-président de la Commission et qui soit pas simplement un ministre des Finances d'un des pays. Il y a toute une série de choses qui ont été parfaitement identifiées qui serait faisable sans même changer les traités, c'est-à-dire sans même avoir un processus lourd. Simplement, il faudrait que Paris, Berlin et les autres capitales se mettent d'accord en disant, bah, effectivement, la solution optimale, c'est peut-être cela. Et donc, il faut accepter de transférer encore du pouvoir au niveau de Bruxelles ou de Francfort ou d'autres villes, de telle façon à ce que collectivement, on soit plus efficace. Parce qu'encore une fois, la mondialisation nous a fait perdre de la souveraineté, les États. La seule façon de regagner cette souveraineté, c'est d'agir collectivement au niveau européen. Et là, les gens doivent en prendre conscience. C'est avec plus d'Europe qu'on réussira éventuellement à lutter contre les problèmes qu'on en a actuellement. Sûrement pas en sortant.
Guillaume Duval, quand on entend ce diagnostic énoncé par François Laffont, finalement les choses sont simples. Il suffit juste de convaincre quelques personnes.
Oui, mais c'est plus aisé que beaucoup de gens ne le pensent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapport de force en Europe, il est plus du tout le même qu'en 2012. C'est-à-dire où Madame Merkel, Monsieur Schäuble maîtrisaient parfaitement la situation et imposaient leurs cours et leurs idées qui sont assez utopiques en matière économique. Tout le monde le sait, mais c'était eux qui décidaient. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là, avec la crise des réfugiés, avec les problèmes géopolitiques. Aujourd'hui, les Grecs, les Italiens tiennent les Allemands dans leurs mains. Parce que il suffit de laisser passer les réfugiés pour que Madame Merkel s'écroule sur le plan politique, sur le plan géopolitique, c'est pas l'armée allemande qui va intervenir en Syrie ou au Mali, etc. Ça reste un nain géopolitique et géostratégique. Donc la main de François Hollande est beaucoup plus forte que celle que pensent beaucoup de Français dans la situation européenne aujourd'hui. Surtout, c'est nous aussi qui avons...
Surtout avec le départ donc de la Grande-Bretagne.
Oui, c'est nous qui avons l'habitude d'avoir des relations avec l'autre côté de la Méditerranée. Si on avait une politique un peu pushy de ce côté-là, ça aiderait vraiment l'Europe et ce serait nous qui pourrions l'amener. Si vous voulez, une des raisons centrales pour lesquelles ça n'avance pas, c'est que l'exécutif français est persuadé qu'il ne peut rien faire et qu'il ne doit rien faire à part obéir aux ordres de Monsieur Schäuble et de Madame Merkel. Mais c'est pas simplement l'exécutif, c'est aussi parce que derrière, l'opinion publique française a acquis désormais cette conviction qu'elle avait plus qu'à s'écraser en Europe et à faire ce que les Allemands voulaient. Je crois que un des déclics importants, c'est que l'opinion publique française et l'exécutif français redécouvrent et comprennent qu'ils ont quelque chose à dire et à faire en Europe et qu'ils ont des projets à mener pour sortir l'Europe de la situation où elle est.
Vous parlez de l'Allemagne et de la France et de déclic. Est-ce qu'il peut y avoir un déclic justement avant les échéances électorales françaises et allemandes, les législatives donc pour l'Allemagne et puis la législative et la présidentielle bien évidemment en France?
C'est effectivement un petit peu le problème en termes d'agenda. C'est-à-dire que ce soit en France en Allemagne, n'auront pas affaire à des candidats très allants pour continuer éventuellement le transfert de souveraineté dans des domaines qui, depuis des siècles, sont dans les capitales. Il y a peut-être d'autres pays ou d'autres acteurs qui peuvent être intéressés à avancer. Bon, hier, le président de la Commission a fait son discours de l'Union. Il a été relativement prudent, pragmatique, en comprenant très bien que la situation était quelque peu différente. Il y a l'Italie qui joue un rôle un peu plus agile parce que le Premier ministre Renzi n'est pas en campagne électorale ou à l'issue du référendum qu'il organise là. Il devrait être tranquille jusqu'en 2018. Et qu'il y a des pays qui ont envie que ça bouge quand même, malgré tout. Alors peut-être pas dans la même direction. Mais c'est là où il faudrait qu'il y ait un petit peu de vision et un petit peu de leadership politique. Malheureusement, on constate que ça devient de plus en plus difficile.
Une vision politique, Guillaume Duval, elle était mise sur pause, on peut dire, dans les périodes préélectorales.
Oui, enfin, il y a quand même des sujets sur lesquels on pourrait avancer et assez vite maintenant et qui étaient restés bloqués depuis 60 ans. Hein. C'est sur la question de la défense. Il y a des possibilités aujourd'hui de faire des choses. Monsieur Renzi pousse un Schengen de la défense européen et dans le contexte géopolitique où on est et dans le contexte aussi des finances publiques, hein, c'est complètement débile que chacun achète ses armes de son côté. Chez chacun son fournisseur, en général américain, on peut, dans le contexte où on est, faire des choses là-dessus. On peut faire des choses aussi sur la police et sur la sécurité, dans le contexte où on est. Si vous voulez, sur la question des réfugiés, par exemple, j'ai pas compris pourquoi le gouvernement français ne proposait pas une mesure simple. Si on veut vraiment, enfin, que ça se passe bien sur la question des réfugiés, c'est évident qu'il faut s'endetter ensemble pour accueillir ces réfugiés et les installer. Si vous demandez aux Hongrois ou aux Polonais de prendre sur leurs budgets sociaux pour installer des réfugiés chez eux, c'est évident que ça va mal se passer et qu'ils vont pas le faire. Donc là, c'était vraiment l'occasion pour dire à Angela Merkel, c'est gentil ton truc, mais si on veut faire ça, il faut céder sur la question de l'austérité budgétaire et il faut s'endetter ensemble pour que ça se passe bien. Aucune personne dans l'exécutif français n'a pris ce type d'initiative. Mais il est jamais trop tard pour bien faire, y compris sur ce dossier.
Et c'est là qu'une question de volonté. François Laffont, je vous laisse le mot de la fin.
Non, c'était juste pour abonder dans le sens. C'est-à-dire que le gouvernement français n'a même pas pris les 30 000 réfugiés que l'on aurait dû prendre et pour lesquels, en principe, on s'était engagé à le faire. Donc c'est effectivement, quand la chancelière Merkel en prend quasiment 900 000 sur son territoire et que nous, on n'est pas capable d'en prendre 30 000, le binôme franco-allemand a un peu de mal à avancer.
Merci. François Laffont, enseignant à Sciences Po l'intégration européenne, Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative économique, où l'on parle dans le numéro de septembre de l'Europe de l'après-Brexit. RFI, il est 19h, dans quelques minutes, l'information revient sur RFI. Mémoire de...